Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Olivier fait du jeu de rôle. Aujourd'hui, la suite de l'épisode précédent, c'est-à-dire notre partie de Dungeon World enregistrée entre amis. Cet épisode est bien entendu une reprise des carnets d'un quarantenaire curieux, autre podcast que j'ai la chance de produire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon blog olivierverbrugge.fr et vous pouvez bien sûr me contacter sur Twitter @auverbe62. Tous ces liens sont bien sûr dans les notes de l'émission. Bon épisode à tous et à bientôt pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court enregistré avec les moyens du bord et où je vous parle, pardon, de mes passions, jeux de rôle, high-tech, organisation, forge, bidouillage, informatique, etc. Aujourd'hui, la suite de l'épisode précédent, c'est-à-dire que vous allez écouter un live play, c'est-à-dire une session de jeu de rôle enregistrée en conditions réelles. C'est donc la suite de l'épisode 18 des carnets d'un quarantenaire curieux, où vous avez pu entendre la création des personnages. Donc je vous invite maintenant à écouter en fait la présentation des personnages qu'ont créés nos trois joueurs, Franck, Cédric et Franck. Donc une présentation qu'ils vont faire de leurs personnages pour que vous ayez une idée un peu plus précise de ce qu'ils souhaitent jouer. Vous m'entendrez poser beaucoup de questions, c'est normal, c'est le principe de Dungeon World, le jeu de rôle auquel nous jouons. Encore une fois, et comme c'était précisé dans l'épisode précédent, nous sommes sur une partie en totale improvisation, c'est-à-dire que je pose aussi beaucoup de questions pour pouvoir avoir une idée de ce que les joueurs souhaitent voir dans leur partie. En effet, moi, ça me permet de visualiser un peu mieux ce que les joueurs attendent et donc ce que je vais pouvoir leur proposer au cours des aventures qui vont suivre. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter, @auverbe62, ou sur le billet de blog qui accompagne cet épisode, sur le blog olivierverbrugge.fr. Vous pouvez aussi me joindre sur le Discord des Streetcasters. Je vais mettre un lien de ce Discord dans les notes de l'émission. Vous retrouverez bien sûr tout ça dans les notes de l'émission. Et puis, bonne écoute, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez plus de renseignements sur le jeu ou sur la façon dont je maîtrise. Et je me permets de vous rappeler, comme je l'avais fait en intro du dernier épisode, vous entendrez beaucoup, beaucoup de bruit, d'assiettes, de verres, etc. Nous mangeons pendant que nous jouons, donc c'est normal. Donc n'y prêtez pas attention. C'est les conditions du direct, comme on dit. Voilà. Allez, à bientôt. Donc Cédric, présente-nous ton personnage. Comment s'appelle-t-il?
Eh bien, je me prénomme, messieurs, la Pie, pour vous servir.
La Pie.
La Pie.
D'accord.
Je suis un halfling, quelqu'un d'agile, de petit. On a toujours besoin de quelqu'un de plus petit que soi. Voilà, effectivement, il m'est arrivé de travailler dans des milieux, disons, quelque peu non officieux, pour des gens aux mœurs, disons, quelque peu particulières. Mais ma foi, je cherche à toujours à gagner ma vie de façon honnête dans mes contrats.
Honnête.
Simplement respecter la consigne qui m'est donnée.
L'honnêteté, pour la vie, c'est quoi? C'est par rapport à son propre code de morale
Du tout, du
ou
tout.
Est-ce que la vie a un vrai code moral qui peut être assimilé au code moral du commun des mortels?
Non, la pie
Je suis
est quelqu'un qui n'a pas vraiment de code moral. Le code moral qui lui compte, c'est d'être payé à la fin d'un contrat.
D'accord.
Les contrats qui sont souvent, effectivement, pour des actions que le commun des mortels n'oserait pas crier sur les toits.
Est-ce que, par exemple, la pie, la notion de parole donnée, c'est quelque chose d'important pour
elle? Un contrat payé, c'est un contrat amené à terme, coûte que coûte?
Dans ce genre de milieu, un contrat qui a été payé mais pas mené à bout conduit en général à des situations assez fâcheuses. Donc effectivement, il vaut mieux les remplir ou disparaître rapidement.
Ou définitivement.
Et donc la parole donnée, c'est quelque chose d'important. Quand je parle de code d'honneur, c'est, tu vois, c'est est-ce que finalement... est-ce que l'API va préférer louvoyer sur certaines conditions ou vraiment moi, aller jusqu'au bout à partir du moment où elle a accepté une mission ou un engagement?
Dans la plupart du temps, l'argent fera
la différence. D'accord.
Après, dans des situations particulières, effectivement, l'API peut temporairement ne pas forcément s'intéresser à l'argent, mais pour des causes quelque plus personnelles.
D'accord. Okay. À quoi il ressemble l'API?
L'API est un alphin, quelque chose qui est plutôt petit.
Un chanteur. L'API chante.
Ah oui. Ah bah oui.
C'est bonbon.
Acidulé.
Obligé.
Habillé dans des vêtements plutôt sombres.
Ouais.
Il a une légère préférence pour les armes facilement dissimulables telles que des dagues.
Ouais.
Souvent légèrement teinte d'une petite lueur qui peut supposer que le métal n'est pas à nu et qu'il a été enduit d'un, disons, petit cadeau personnel. C'est typiquement la personne qui ne se fait pas remarquer, discrète.
Est-ce que la pile a un signe distinctif? Une cicatrice, une marque visage, un habit qui fait que tout le monde se dit « Tiens, il y a l'API qui vient de passer. »
Par définition, le rôle d'un monte en l'air et d'un écourteur de vie...
C'est de rester discret.
D'être discret. Néanmoins, pour certains, nous pourrons voir sur le poignet un signe qui laisse supposer des connaissances en botanique et en substance quelque peu dangereuse, effectivement, en l'occurrence, une vipère autour d'un bâton.
Donc l'API a
un tatouage.
Une réputation d'empoisonneur.
Plutôt, pas forcément d'empoisonneur, mais de contrats remplis discrètement, de morts passantes pour des accidents, voilà.
D'accord.
Sans pour autant qu'on puisse vraiment relier... Ça a une mort non naturelle.
Et t'as grandi où?
Dans les bas-fonds.
Qui n'a pas grandi.
Ah bah oui, t'as envie.
Discriminé, cela a quelque peu influencé son jugement par rapport à la morale et l'éthique.
Ouais.
Souvent discriminé. L'API a vécu effectivement dans des petites bandes, de petites frappes. Avant de commencer à opérer en solo pour des gens peu regardants sur la méthode.
Et c'est
pas faire.
De quelle ville la ville s'appelait comment? Enfin, s'appelle comment?
Pour répondre à tout
ça. Alors, tu l'as dit, mais moi,
ça s'appelait Urborg.
Urborg.
Oui, Urborg. Une zone, enfin, une ville un peu construite à manière des maisons de pilotis en Asie sur un marais, le genre d'endroit où on peut faire du commerce fortement illégal.
Au bord de la mer ou d'un lac?
Ah non, clairement un marais, une zone vraiment de non-droit, une sorte de no man's land où les autorités n'osent pas s'y aventurer.
Ok. Des petites choses à rajouter tout de suite ou on enchaîne avec... le personnage de Franck.
Celui-là, d'abord.
Celui-là de Franck. T'as un peu de répit. Réfléchis. Note.
Urborg est une zone effectivement qui se situe dans ce qu'on appelle autrefois le domaine Ness, du nom d'une fameuse famille noble, au destin quelque peu tragique, et qui s'en est suivi, disons, par. Une décrépitude et une quelque sorte une malédiction, un domaine qui aujourd'hui n'est plus qu'une ruine et entouré de zones marécageuses où la vie semble peiner difficilement à survivre.
Le domaine Vess, tu dis.
Vess, oui.
T'as beaucoup d'imagination, quand même, hein.
Oui.
Parce que, quand même,
une zone, effectivement, qui est réputée hantée, maudite, où les morts-vivants sont légion. Et voilà, qui est le nom Vess est presque un nom limite chuchoté
C'est le nom du marais, Vess?
Alors, de l'an... De le, fin, Urborg est une sorte de ville un peu bandit de...
J'ai bien fait des cartes d'envers, hein, tout à l'heure.
De paria. Et effectivement, le domaine Vess était ce qui, aujourd'hui, est un marais contrôlé en grande partie par une secte. Ah oui. La coterie. Mais on est plus sur le domaine du No Man's Land que d'un vrai...
C'est bon, il a fini. Hein. Tu peux...
Que d'un vrai, je dirais, pays, royaume ou entité, je dirais...
Personne ne veut de ce coin-là, quoi.
Voilà.
Il n'y a rien d'intéressant.
Des problèmes et que des ennuis, quoi. Mmh. D'où le fait que ce soit un repère d'exilés, de parias, de voleurs, de...
D'accord.
Et de trafiquants en tout genre.
Donc nous avons un immolateur dans le groupe.
On plaque pour le dit rapport.
Je fais dans le sens trigonométrique, hein, je suis désolé.
Donc nous avons un immolateur. À quoi ressemble l'immolateur?
Bah, à une salamandre.
À une salamandre, d'accord.
Tu vois une salamandre, taille humaine, voilà, taille humaine et qui marche sur ses pieds, tu vois.
Il y a des prix, je crois que c'était un serpent parti, la salamandre.
La salamandre, c'est plutôt un lézard.
Oui,
c'est
ce qu'il y a derrière, là. Dans l'Heroic Fantasy, on n'est pas sur l'aspect souvent lézard, voilà, on est plus sur un aspect plus serpent humanoïde.
Ah non, moi, la salamandre, pour ce que j'ai pu voir, ouais, je vois plutôt le côté...
C'est ça, ouais.
Ouais. Voilà, je reste là-dessus.
Un peu comme les geckos, quoi. Ou ce qu'on peut trouver en France, comme ça.
Alors, gecko, c'est bien spécifique, mais l'idée, c'est les arts, mais humanoïdes.
Sa patte.
Tu parles
Ah, je parle.
Apparence un peu homme-lézard, non?
As-tu un zézettement?
J'ai pas de zézettement, j'ai pas une langue fourchue, j'ai une langue normale. Je parle normalement, et quelqu'un en douterait, ça m'agacerait.
Est-ce que le peuple des salamandres est très répandu dans le monde où vous êtes?
Alors, pas forcément. Moi, je viens d'un village de montagne, flanc de colline.
Orienté au sud.
On a
c'est
pas
mieux pour les lézards.
On n'a pas besoin.
Désolé.
Justement, on a cultivé la production de chaleur, si tu veux. Mmh. Donc, on n'est plus dépendant.
D'accord.
On crée. Donc, bah mon nom déjà quand même.
Profession chauffagiste.
Je m'appelle Marcheflamme.
Mais juste sur lui.
Marcheflamme, ouais.
Voilà.
Tiens, Marcheflamme est un garçon ou... Enfin...
C'est un garçon.
D'accord.
Je confirme.
Est-ce que...
Comme ça.
T'as une peau écailleuse, donc?
Non.
Non.
Non. J'ai une peau plutôt cuir épais.
D'accord. Il y a une teinte particulière?
Ouais, c'est plutôt rougeâtre. Ouais. Alors, comme un peu rouge, si tu veux.
Ouais.
Je sais pas s'ils ont le cuir épais, hein, mais un peu rougeâtre. Plutôt bronzé, quoi.
Ok.
Bronzé.
Bronzé, coup de soleil, quoi.
Peau bronze.
Marcheflamme a toujours vécu dans son village, ou pas? Ou est-ce qu'il a quitté ce village il y a longtemps?
Alors, il ne l'a pas quitté il y a très longtemps. C'est plutôt un village où, comment dire... D'abord, c'est une vie de montagne, hein, donc c'est une vie très rude.
Ouais.
C'est une vie qui forge les tempéraments. Et comme souvent dans ces cas-là, il y a une forte cohésion, voire même un esprit très clanique. Mmh. Et lui, il est un petit peu à part des autres parce qu'il était intéressé, par curiosité, à voir découvrir les autres espèces. Mais qu'on se trompe pas, c'est une curiosité qu'il a envie d'assouvir, mais avec la forte envie de retourner et retrouver son peuple et son village.
Ce qui veut dire que les salamandres du monde où vous êtes vivent assez reclus?
Y a que des salamandres dans le village. Oui.
D'accord.
Et elles communiquent avec d'autres.
Il y aurait une forme de racisme?
Pas du tout. Il y a un esprit clanique.
D'accord.
Comme je l'ai expliqué. C'est pas contre les autres, c'est entre soi. La preuve d'ailleurs, c'est que j'ai une curiosité pour les autres peuples.
Mais vous avez des échanges quand même réguliers, que ça soit
c'est
commercial
ce que je te disais.
Ou...
Il y a des échanges avec les autres. Il n'y en a pas d'autres qui vivent avec nous parce que on a nos modes de vie qui ne sont pas forcément adaptés. Je pense qu'il fait un peu chaud pour certains.
Si tu pouvais me citer justement un truc, un mode de vie particulier chez les salamandres qui soit pas commun aux autres peuples.
Eh bien, comment expliquer ça ? C'est pas facile à comprendre quand on n'est pas du milieu. Je cherche le terme exact. On sacrifie êtres ou des objets au feu.
D'accord.
Peut-être que ça incite pas d'autres personnes à venir vivre avec nous.
C'est fait pour. Qu'est-ce qui, que ce soit au niveau du comportement ou au niveau physique, différencie Marcheflamme de... J'allais dire, si j'étais un humain moyen, raciste et absolument pas habitué à croiser des salamandres, qu'est-ce qui ferait que je pourrais discerner Marcheflamme des autres de son peuple ? Dans son apparence ou dans son comportement, hein.
Merci. Peu importe. Alors, discerner, je sais pas quel sens tu veux le dire.
Différencier.
Alors déjà, j'ai des cicatrices rituelles. Et comme toutes cicatrices rituelles, elles ne sont pas identiques d'une personne à l'autre.
Est-ce qu'il ne faut pas être initié pour faire la différence ou...
Bah, c'est un peu comme quand tu regardes des dessins maoris, entre le mec qui a des petits traits et le mec qui a des grands cercles, t'es pas initié, d'accord. Tu sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas les mêmes.
T'arrives pas à l'air.
Partie de votre...
Après, effectivement, si tu vois que moi, tu sais pas que d'autres ont des trucs différents.
Mais ils ressemblent à quoi, donc, du coup, les tiens ?
Moi, j'ai des... Comment dire ? Un peu comme une écriture cunéiforme.
Ouais.
Et mes bras sont couverts de petits accents circonflexes, pour schématiser. Hein. Mmh. Et c'est une accumulation de petits dessins cunéiformes.
D'accord. C'est pas la première fois que tu es hors de ton village, entre guillemets, à l'aventure.
Ah non.
En quoi c'est différent cette fois-ci ?
Ah ben, c'est que les autres fois, c'était des échanges. Là, ça fait déjà 5 mois que je suis parti du village pour rencontrer différents peuples, différents villages, différentes façons de vivre, différentes cultures. Comme je le disais tout à l'heure, par curiosité, pour m'enrichir de connaissances.
Et notre chaman ?
Alors, moi, c'est Mabadou. Truc super... je suis... Alors, j'ai vécu dans les grottes, donc je vois, mais en même temps, je vois par l'esprit. Je suis complètement aveugle.
Ah, t'es aveugle.
C'est ça. Donc, à avoir vécu... avoir vécu, effectivement, dans les grottes, dans les cavernes...
Je vais dire, j'ai une grande queue.
Elle est très grande.
Tu mastiques un peu.
Elle assure un supplément de stabilité.
D'accord. Donc Mamadou ne voit rien.
Voilà, je suis. Voilà. Je ne vois rien. Alors, j'ai. On m'a dit qu'effectivement j'avais vu en étant jeune. Et donc voilà, j'ai été élevé dans les grottes. Sinon, je communique avec les esprits.
Oui. Est-ce que Mamadou a est de grande taille ou est-ce que c'est quelqu'un
de normal? Non, une taille normale. D'accord. Normal.
Pas particulièrement musculeux.
Non, je suis vêtu d'une peau de bête.
Ouais.
Et de quelle bête?
J'ai un léopard des neiges.
Ah, le notary, ça aurait été plus drôle. C'est plus comme
ça. Ouais, ça aurait pas été horrible, très pas mal.
Est-ce que le fait que Mamadou a grandi dans cette grotte, donc sans rien y voir toute sa vie,
bien, oui.
C'est quelque chose de commun à son peuple d'origine
pas
ou est-ce
tout.
Que c'est du fait de sa formation de chaman qu'on l'a obligé finalement à vivre là pour découvrir la voie des esprits ?
En fait, j'ai été chaman dans l'éducation en étant gamin, perdu par son peuple, par sa tribu. Et en fait, je me suis retrouvé à l'abri dans une grotte et je me suis en fait éduqué tout seul.
D'accord. Ah, t'as pas eu de gourou de...
Non, pas du tout. Et en fait, j'ai...
ils t'ont paumé dans un réseau de grottes et t'as dû te démerder tout seul.
Par le noir, par la sensation et autres, avec effectivement l'aide des esprits, j'ai pu effectivement communiquer avec tout ce qui m'entourait.
Ça a été quoi la première rencontre avec les esprits? Ça a dû faire peur. Hein.
Ouais. Ouais, en fait, c'était des...
Qu'est-ce qu'il a dit encore comme un
Franck.
Toi En fait, j'étais dans un tombeau.
Mais je m'applique pas là-dedans.
Dans un tombeau. Donc avec des guerriers morts.
Je m'applique pas là-dedans.
Une tribu morte, effectivement, qui avait été.
Ils te sont apparus comme ça.
Comme ça, voilà. Avec, effectivement, au bout de quelques jours, j'étais complètement dans la détresse, dans le besoin d'être très conforté. Putain, mais c'est lourd, merde.
Et c'était sérieux, Mamadou, quoi.
Et donc voilà, j'ai été confronté à eux.
T'es tombé dans cette crypte. Donc t'es tombé dans cette crypte. Les esprits des morts te sont apparus.
C'est ça. Et donc j'ai communiqué avec eux. J'ai appris à vivre effectivement aussi avec tout ce qui m'entourait, aussi bien la nature, les animaux, voilà.
Et quel type d'esprit t'as pu croiser alors dans ces galeries Est-ce que c'est des esprits des morts, justement? Est-ce que c'est des esprits
pas,
de la nature?
Pas seulement, voilà, les esprits de la nature, effectivement. Ouais. Les bêtes m'ont aidé à me nourrir, parce que, bon, les esprits des morts, forcément, nourrir, ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, voilà, les animaux m'entouraient, aussi bien les insectes que les animaux sauvages qui venaient se réfugier dans ces grottes-là. Et donc, j'ai appris à communiquer avec eux.
Si j'entends bien.
Sans peur, entre guillemets, parce que je ne voyais rien. Ouais. Je ne voyais pas
ce qui arrivait vers moi. Et si j'entends bien, en fait, dans la vision de Mamadou du monde, tout est esprit. Quoi.
C'est ça. C'est ça.
C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, il va tomber sur une charrette tirée par un âne, il va percevoir l'esprit de l'âne, il va percevoir l'esprit
le mouvement de la charrette, mais pas plus que ça.
Voilà. D'accord. Ok. Donc, finalement, peu de contact avec la civilisation en général.
C'est ça.
T'es sorti de là à quel âge?
Je ne sais pas trop quel âge j'ai, donc on va dire une vingtaine d'années.
C'est pire.
Assez grand pour effectivement me déplacer, me nourrir tout seul, et arriver effectivement dans cette civilisation là, un peu perdu, mais pas à regarder les gens différemment par leur façon d'être, par leur
façon de passer. Un regard neuf sur les choses.
Voilà.
Ça explique pourquoi ce qu'il fait avec nous, hein. Parce que justement, quand on nous regarde, on peut se poser des questions. Hein.
Je vais y venir.
Sans a priori.
Ah bah oui, je vais y venir. Il y avait que le temps pour nous accepter.